Chapitre 6. Pendant la semaine, tante Ouju se dépêchait de rentrer à la maison pour prendre une douche et attendre le général. Et le week-end, elle traînait en chemise de nuit, lisait, ou faisait la cuisine, ou regardait la télévision, parce que le général était à Abuja avec sa femme et ses enfants. Elle évitait le soleil et utilisait des crèmes que renfermaient d'élégants flacons, grâce à quoi son teint, naturellement pâle, prenait un ton plus clair, plus brillant, avec un éclat particulier. Parfois, quand elle donnait des instructions à son chauffeur, Sola, à son jardinier, Baba Flower, ou à ses deux domestiques, Inyang, la femme de ménage, et Chikodili, la cuisinière, Ifemelu se souvenait de tante Ouju, la fille du village venue à Lagos des années auparavant, à qui la mère d'Ifemelu reprochait d'être une pauvre gourde qui se tenait au mur. Qu'avaient donc tous ces villageois incapables de rester sur leurs pieds sans laisser la trace de leurs paumes sur un mur? Ifemelu se demandait si tante Ouju se voyait avec les yeux de la jeune fille qu'elle avait été. Peut-être pas. Elle s'était installée dans sa nouvelle vie sans effort, attachant plus d'importance au général lui-même qu'à sa nouvelle richesse. La première fois qu'Ifemelu vit la maison de tante Ouju à Dolphin Estate, elle ne voulut plus en repartir. La salle de bain la fascinait, avec son robinet d'eau chaude, le jet jaillissant de la douche, les carreaux roses. Le rideau de douche était en soie sauvage, et elle dit à tante Ouju : « Oh, c'est du gâchis d'utiliser ce tissu pour faire un rideau. On pourrait y coudre une robe. » Le salon avait des portes vitrées qui coulissaient sans bruit pour s'ouvrir et se refermer. Même la cuisine était climatisée. Elle voulait vivre ici. Ses amis seraient impressionnés. Elle les imaginait assis dans la petite pièce à côté du salon, que tante Ouju appelait la salle télé, regardant les programmes diffusés par satellite. Elle demanda alors à ses parents si elle pouvait habiter chez tante Ouju pendant la semaine. « C'est plus près de l'école, je n'aurai pas besoin de prendre de bus. Je pourrais y aller le lundi et rentrer le vendredi, » dit Ifemelu. « Je pourrais aussi aider tante Ouju dans la maison. » « D'après ce que je sais, Ouju a toute l'aide nécessaire, » dit son père. « C'est une bonne idée, » dit sa mère à son père. « Elle pourrait étudier correctement là-bas. Au moins, elle aurait de la lumière tous les jours. Pas besoin de travailler à la lueur d'une lampe à pétrole. » Elle peut aller rendre visite à Ouju après l'école et pendant les week-ends. « Mais elle n'habitera pas là-bas, » dit son père. Sa mère se tut, déconcertée par sa fermeté. « D'accord, » dit-elle, lançant un regard impuissant à Ifemelu. Pendant des jours, Ifemelu bouda. Son père cherchait souvent à lui faire plaisir, cédait à ses demandes, mais cette fois, il ignora ses mots, ses silences délibérés à table pendant les repas. Il prétendit ne rien remarquer quand tante Ouju leur offrit une nouvelle télévision. Il se cala dans son canapé défraîchi, resta à lire son livre défraîchi, tandis que le chauffeur de tante Ouju déposait le carton brun Sony. La mère d'Ifemelu entonna un cantique, « Le Seigneur m'a donné la victoire, je l'élèverai plus haut », qui était souvent chanté au moment de la quête. Le général a acheté plus qu'il n'en fallait à la maison. Il n'y avait pas de place pour la mettre, dit tante Ouju. Un constat d'ordre général adressé à personne en particulier, une façon de couper court aux remerciements. La mère d'Ifemelu ouvrit le carton, en nota précautionneusement la protection en mousse. Notre vieille télé ne donne plus rien, dit-elle, mais ils savaient tous qu'elle fonctionnait encore. Regardez comme l'écran est plat, ajouta-t-elle. Regardez! Son père leva les yeux de son livre. Oui, il est plat, dit-il, puis il abaissa son regard. Le propriétaire revint. Il entra dans l'appartement en bousculant Ifemelu, alla à la cuisine, tendit le bras vers le compteur électrique et en arracha le fusible, coupant le peu de courant dont il disposait. Après son départ, le père d'Ifemelu dit « Quelle honte! Nous réclamer 2 ans de loyer, nous avons payé 1 an !»« Mais même cette année-là, nous n'avons pas payé !» dit sa mère, et son ton contenait un soupçon d'accusation. « J'ai parlé à Akune à propos d'un prêt, » dit son père. Il n'aimait pas Akune, son presque cousin, l'homme riche de leur village natal auquel chacun soumettait ses problèmes. Il tenait à Kuné pour un abominable illettré, un nouveau riche qui dépensait sans compter. Qu'a-t-il dit ? Il a dit que je vienne le voir vendredi prochain. Ses doigts tremblaient. Il semblait lutter pour réfréner son émotion. Ifemelu détourna hâtivement le regard, espérant qu'il ne l'avait pas vu l'observer, et lui demanda s'il pouvait lui expliquer une question difficile dans ses devoirs, pour le distraire, lui faire penser que la vie pouvait recommencer. Son père ne demanderait pas d'aide à tante Uju, mais si elle apportait de l'argent, il ne refuserait pas. Il préférait ça que d'être redevable envers Akune. Ifemelu raconta à tante Uju comment le propriétaire avait frappé à la porte, plus fort que nécessaire, pour attirer l'attention des voisins, tandis qu'il accablait son père d'injures. « Tu n'es donc pas un homme ! Paye-moi mon argent, je te jetterai hors de cet appartement si je n'ai pas le loyer la semaine prochaine !» Comme Ifemelu imitait le propriétaire, un voile de tristesse se répandit sur le visage de tante Uju. Comment ce nullard de propriétaire peut-il embarrasser frère comme ça ? Je vais demander à Oga de me donner l'argent. Ifemelu l'arrêta. Tu n'as pas d'argent ? Mon compte est presque vide, mais Oga va me le donner. Et tu sais, je n'ai pas reçu mon salaire depuis que j'ai commencé à travailler. Tous les jours, il y a une histoire nouvelle à la comptabilité. Les ennuis ont commencé avec ma position qui n'existe pas officiellement, même si je reçois des patients tous les jours. Mais les docteurs sont en grève, dit Ifemelu. Les hôpitaux militaires payent encore, mais ma paye sera insuffisante pour le loyer, c'est sûr, chat. Tu n'as pas d'argent ? Demanda à nouveau Ifemelu, lentement, pour bien comprendre, pour s'en persuader. Tante, mais comment peux-tu ne pas avoir d'argent ? Oga ne me donne jamais beaucoup d'argent. Il paye toutes les factures et il veut que je lui demande tout ce dont j'ai besoin. Certains hommes sont comme ça. Ifemelu regarda tante Uju dans sa grande maison rose avec la grosse antenne parabolique qui sortait du toit, son générateur plein à ras-bord de diesel, son congélateur rempli de viande, et elle n'avait pas d'argent sur son compte en banque. Ifem, ne prends pas cet air comme si quelqu'un était mort. Tante Uju rit, de son rire ironique. Elle paraissait soudain petite et décontenancée parmi les résidus de sa nouvelle vie. Le coffret à bijoux couleur fauve sur la coiffeuse, la robe de soie jetée en travers du lit, et Ifemelu eut peur pour elle. Il m'a même donné un peu plus que ce que j'avais demandé, dit tante Uju à Ifemelu le week-end suivant, avec un petit sourire, comme amusée par la réaction du général. Nous irons directement du salon de coiffure à la maison afin que je puisse le donner à frère. Ifemelu fut stupéfaite du prix d'une retouche de défrisant au salon de coiffure de tante Uju. L'air hautain, les coiffeuses évaluaient chaque cliente, la jaugeaient de la tête aux pieds pour décider du degré d'attention qu'elle méritait. Elle s'agitait autour de tante Uju, se mettait à plat ventre devant elle, l'accueillait avec force révérence, la complimentait sur son sac à main et ses chaussures. Ifemelu les observait, fascinée. C'était ici, dans un salon de coiffure de Lagos, que les différentes strates de l'impérium féminin étaient le plus faciles à saisir. Ces filles, je m'attendais à ce qu'elles tendent leurs mains et te demandent de chier dedans pour qu'elles puissent adorer ça aussi, dit Ifemelu quand elles quittèrent le salon. Tante Uju rit et tapota les extensions soyeuses qui lui tombaient sur les épaules. Ondulations chinoises, dernier cri, brillantes et parfaitement régulières, elle ne s'en mêlait jamais. Tu sais, nous vivons dans une économie de lèche-cul. Le plus gros problème dans ce pays n'est pas la corruption, c'est qu'il y a une quantité de gens qualifiés qui ne sont pas là où ils devraient être, parce qu'ils refusent de lécher le cul de qui que ce soit, ou qu'ils ne savent pas quel cul lécher, ou encore qu'ils ne savent pas lécher un cul. J'ai la chance de lécher le cul qu'il faut. Elle sourit. C'est juste un coup de chance. Oga dit que j'ai été bien élevée et que je n'étais pas comme toutes les filles de Lagos qui couchent avec lui la première nuit et le lendemain matin lui remettent une liste de ce qu'elles veulent qu'il leur achète. La première fois que j'ai couché avec lui, je n'ai rien demandé, ce qui était stupide maintenant que j'y pense. mais je n'ai pas couché avec lui parce que je voulais quelque chose. Cette chose qu'on appelle le pouvoir. J'étais attirée par lui, même avec ses dents de Dracula. J'étais attirée par son pouvoir. Tante Uju aimait parler du général, répétant et savourant différentes versions de la même histoire. Son chauffeur lui avait dit, elle s'attachait sa loyauté en arrangeant les visites prénatales de sa femme et les vaccinations de son bébé, que le général lui demandait des détails sur les endroits où elle se rendait et le temps qu'elle y restait. Et chaque fois que tante Uju racontait cette histoire à Ifemelu, elle terminait en soupirant. « Me croit-il incapable de rencontrer un autre homme sans qu'il le sache, si je le voulais ? Mais je n'en ai pas envie. » Elles étaient dans la Mazda climatisée. Comme le chauffeur faisait marche arrière pour franchir les grilles du parking du salon de coiffure, tante Uju fit un signe au portier, abaissa la vitre et lui donna un peu de monnaie. « Merci, madame, » dit-il et il salua. Elle avait glissé des billets de Neiras à toutes les coiffeuses, aux vigiles à l'extérieur et aux policiers au croisement de la route. « Ils ne sont pas assez payés pour envoyer à l'école ne serait-ce qu'un seul enfant, » dit tante Uju. « Cette monnaie que tu lui as donnée ne va pas l'aider à payer l'école, » dit Ifemelu. « Mais il pourra se payer un petit extra, il sera de meilleure humeur et ne battra pas sa femme ce soir, » dit tante Uju. Elle regarda par la vitre et dit « Ralentis cela !» pour regarder un accident sur Osborne Road, un bus qui avait embouti une voiture et les deux conducteurs qui s'invectivaient au milieu d'une foule grandissante. « D'où viennent-ils, tous ces gens qui surgissent dès qu'il y a un accident ?» Tante Uju se renfonça dans son siège. « J'ai oublié à quoi ressemble de prendre un bus, tu sais. C'est tellement facile de s'habituer à tout ça. » « Tu peux très bien aller à Falomo et monter dans un bus, » dit Ifemelu. « Mais ce ne serait pas la même chose. Ce n'est jamais la même chose quand tu as d'autres possibilités. » Tante Uju la regarda. « Ifem, cesse de te faire du souci pour moi. »« Je ne me fais pas de souci. Tu t'inquiètes depuis que je t'ai parlé de mon compte en banque. Si quelqu'un d'autre faisait la même chose, tu dirais que c'est stupide. Je n'aurais même pas l'idée de te conseiller de faire comme moi. » Tante Uju se tourna vers la vitre. « Il changera. Je le ferai changer. Il me faut juste du temps. » Arrivée à l'appartement, tante Uju tendit au père d'Ifemelu un sac de plastique bourré d'argent liquide. « De quoi payer le loyer pendant 2 ans, frère ? » dit-elle avec une désinvolture forcée. Puis elle se moqua du trou qu'il y avait dans son maillot de corps. Elle lui parlait sans le regarder en face. Et il la remercia, sans la regarder en face. Le général avait les yeux jaunes, ce qui pour Ifemelu était signe d'une enfance sous-alimentée. Son corps massif, trapu, parlait de combats engagés et gagnés, et ses dents de lapin qui pointaient entre ses lèvres lui donnaient un air vaguement dangereux. Ifemelu fut surprise par sa vulgarité jubilatoire. « Je suis un paysan !» déclara-t-il d'un ton joyeux. Comme pour expliquer les gouttes de soupe qui atterrissaient sur sa chemise et sur la table pendant qu'il mangeait, ou ses rots sonores par la suite. Il arrivait le soir, dans son uniforme vert, 1 ou 2 magazines People à la main, tandis que son aide de camp, qui se tenait quelques pas derrière lui à une distance respectueuse, portait son attaché case et le posait sur la table de la salle à manger. Il remportait rarement les magazines. Des exemplaires de Vintage People, The Prime People et de Lagos Life traînaient dans la maison de tante Uju, avec leurs photos floues et leurs titres racoleurs. « Si je te disais ce que font ces gens, disait tante Uju à Ifemelu, tapotant la photo d'un magazine de son oncle manicuré à la française. Leurs histoires véritables ne figurent même pas dans les magazines. Oga en connaît l'essentiel. Puis elle parlait de l'homme qui couchait avec un général important pour obtenir une concession de pétrole, de l'intendant militaire dont les enfants étaient d'un autre père, des prostituées étrangères qui arrivaient chaque semaine en avion pour le chef de l'État. Elle rapportait ses histoires avec un amusement complice, comme si elle considérait l'intérêt du général pour ses potins salaces comme un petit plaisir pardonnable. Sais-tu qu'il a peur des piqûres ? Un général commandant en chef et il meurt de trouille à la vue d'une aiguille. disait-elle sur le même ton. C'était pour elle un détail touchant. Ifemelu ne voyait rien de touchant chez le général, avec ses manières brutales et grossières, sa façon d'appliquer une claque sur le postérieur de tante Uju quand il montait l'escalier en disant « Tout ça pour moi ? Tout ça pour moi ?» et de parler sans arrêt, refusant de s'interrompre, jusqu'à ce qu'il ait terminé son histoire. Une de ses préférées, qu'il racontait souvent à Ifemelu en buvant une bière star après le dîner, était celle où il expliquait à quel point tante Uju était différente. Il la racontait d'un air satisfait, comme si cette différence reflétait son bon goût personnel. La première fois où je lui ai dit que j'allais à Londres et lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir, elle m'a donné une liste. Avant même d'y jeter un œil, j'ai dit que je savais déjà ce qu'elle voulait. Du parfum, des chaussures, un sac, une montre ou des vêtements. Je connais les filles de Lagos. Mais tu sais ce que c'était ? Un parfum et 4 livres. J'ai été stupéfait. Tché ! J'ai passé une bonne heure dans cette librairie de Piccadilly. Je lui ai acheté 20 livres. Quelle fille de Lagos demanderait des livres, franchement ? Tante Uju riait, jouant soudain à la petite fille docile. Ifemelu souriait poliment. Mais ce vieil homme marié qui lui racontait des histoires lui paraissait méprisable et irresponsable. C'était comme s'il s'était montré devant elle en caleçon sale. Elle s'efforçait de le voir avec les yeux de tante Uju, un homme qui accomplissait des prodiges, un homme de grande expérience. Mais elle n'y parvenait pas. Elle appréciait la spontanéité, le tempérament joyeux de tante Uju pendant la semaine. C'était ce qu'elle ressentait quand elle attendait au Binzé après l'école. Mais elle trouvait anormal, un gâchis, que tante Uju éprouve ce sentiment pour le général. Son ancien petit ami, Oulu Jimmy, était différent, séduisant, avec une voix douce. Il brillait d'un éclat tranquille. Ils avaient été ensemble pendant la presque totalité de leurs études à l'université. Et il suffisait de les voir pour comprendre pourquoi ils étaient ensemble. « Je me suis détachée de lui », disait tante Uju. « Quand on se détache de quelqu'un, n'est-ce pas pour trouver mieux ?» demanda Ifemelu. Et tante Uju rit comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Le jour du coup d'État, un ami proche du général appela tante Uju et lui demanda si elle était avec lui. Il régnait une certaine tension. Des officiers de l'armée avaient déjà été arrêtés. Tante Uju n'était pas avec le général. Elle ne savait pas où il était et filait 100 pas à l'étage. Puis en bas, inquiète, passant des coups de téléphone en vain. Elle se sentit bientôt oppressée, se mit à haleter, sa panique transformée en crise d'asthme. Elle étouffait, tremblait, s'enfonçait une aiguille dans le bras, tentait de s'injecter un médicament, des gouttes de sang tachant le dessus de lit, jusqu'à ce qu'Ifemelu se précipite dans la rue et aille frapper à la porte d'un voisin dont la sœur était aussi médecin. Le général finit par téléphoner pour dire qu'il allait bien, que le coup avait échoué et que tout était redevenu normal pour le chef de l'État. Les tremblements de tante Uju cessèrent. À l'occasion d'une fête musulmane, un de ces congés de 2 jours où les non-musulmans de Lagos disaient « Heureux Salah !» à tous ceux qu'ils croyaient être musulmans, souvent des gardiens venus du Nord, et durant lesquels la station de télévision NTM montrait toute la journée des séquences sur des hommes occupés à abattre des béliers, le général promit de venir en visite. Ce serait la première fois qu'il prendrait un congé avec tante Uju. Elle passa toute la matinée dans la cuisine à superviser Chico Dili, chantant à tue-tête, se montrant un peu trop familière avec Chico Dili, un peu trop prête à rire avec elle. La préparation du repas terminée et la maison embaumant les épices et les sauces, elle monta à l'étage pour prendre une douche.
Ifem, s'il te plaît, viens m'aider à me raser les poils du bas. Oga dit que ça le dérange,
dit tante Uju en riant. Et elle s'allongea sur le dos, les jambes écartées et levées haut. Un vieux magazine sous elle, pendant qu'Ifemelu s'affairait avec un savon à barbe. Ifemelu avait fini, et tante Uju était en train d'appliquer un masque exfoliant sur son visage quand le général téléphona pour dire qu'il ne lui était pas possible de venir. Blême, le visage recouvert de son masque de pâte crayeuse, à l'exception des cercles de chair autour des yeux, tante Uju raccrocha, alla à la cuisine et entreprit de mettre la nourriture au congélateur dans des boîtes en plastique. Chikodili la regardait faire, l'air étonné. Tante Uju s'affairait fébrilement, ouvrait brutalement la porte du congélateur, claquait celle du buffet et, en repoussant la casserole de riz jollof, elle renversa celle de la soupe d'égoussi qui mijotait. Elle regarda la sauce jaunâtre se répandre sur le sol de la cuisine, comme si elle ne savait pas comment c'était arrivé. Elle se tourna vers Chikodili et hurla.
« Pourquoi restes-tu là comme une moumou? Allez, nettoie tout ça !»
Ifemelu l'observait depuis la porte de la cuisine. « Tante, la personne à laquelle tu devrais t'en prendre est le général. » Tante Uju se figea, les yeux hors de la tête, folle de rage.
« C'est à moi que tu parles ainsi? Est-ce que nous avons le même âge ?»
Elle se rua sur elle. Ifemelu ne s'attendait pas à ce qu'elle la frappe. Pourtant, quand la gifle atteignit le côté de son visage, avec un bruit qui lui parut venir de très loin, laissant les marques des doigts de tante Uju sur sa joue, elle ne fut pas surprise. Elles se regardèrent fixement. Tante Uju ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma, tourna les talons et monta à l'étage. Et toutes les deux surent que quelque chose avait changé entre elles. Tante Uju ne redescendit pas avant le soir, quand Adesuwa et Uche vinrent lui rendre visite. Elle les appelait « mes amis entre guillemets ». « Je vais chez le coiffeur avec mes amis entre guillemets », disait-elle, un léger rire dans l'œil. Elle savait qu'elles étaient ses amies uniquement parce qu'elle était la maîtresse du général. Mais elle l'amusait. Elle venait la voir à tout bout de champ, parler d'achats et de voyages, la priant de les accompagner à des fêtes. Elle s'étonnait d'en savoir autant et si peu à leur sujet, dit-elle un jour à Ifemelu. Elle savait par exemple qu'Adesuwa était propriétaire d'un terrain à Abuja, qui lui avait été offert à l'époque où elle sortait avec le chef de l'État, et qu'un Haoussa très fortuné avait payé la boutique d'Uche à Surulere. Mais elle ignorait combien d'enfants elles avaient, où vivaient leurs parents, et si elles avaient fait des études à l'université. Chikodili les fit entrer. Elles étaient fortement parfumées, vêtues de caftans brodés, leurs extensions chinoises retombant sur leurs épaules. Elles papotaient, toujours pragmatiques, avec des rires brefs et méprisants.
« Je lui ai dit de l'acheter à mon nom, oh ! Ah, je savais qu'il n'apporterait pas l'argent, à moins que je dise que quelqu'un était malade. Non, pour le moment, il ne sait pas que j'ai ouvert le compte. »
Elles allaient à une fête de Salah sur Victoria Island et étaient venues chercher tante Uju. « Je n'ai pas envie d'y aller, » leur dit tante Uju, tandis que Chikodili servait du jus d'orange, un carton posé sur un plateau accompagné de deux verres.
Un ? Pourquoi pas ?
Demanda Uche.
Il y aura des hommes importants, dit Adesuwa. On ne sait jamais si on ne va pas rencontrer quelqu'un.
Je n'ai envie de rencontrer personne, dit tante Uju.
Et le silence régna, comme si chacune d'elles retenait sa respiration, comme si les paroles de tante Uju étaient une tempête qui mettait en pièces leurs attentes. Elle était censée vouloir rencontrer des hommes, garder les yeux ouverts. Elle était censée voir le général comme une option qui pouvait être améliorée. Finalement, l'une d'elles, Adesuwa ou Uche, dit
« Ce jus d'orange est d'une marque bon marché, oh ? Tu n'achètes plus du Just Juice ?»
Une piètre plaisanterie, mais elles rirent pour détendre l'atmosphère. Après leur départ, tante Uju s'approcha de la table de la salle à manger où Ifemelu était en train de lire.
« Ifem, je ne sais pas ce qui m'a pris, Ndo. »
Elle saisit le poignet d'Ifemelu, puis passa sa main, presque pensivement, sur le titre gaufré du roman de Sidney Sheldon que lisait Ifemelu.
« Je dois être folle. Il a une panse gonflée de pierre et les dents de Dracula, une femme et des enfants. Et il est vieux !»
Pour la première fois, Ifemelu se sentit plus vieille que tante Uju, plus sage et plus forte. Et elle souhaita pouvoir l'arracher à son existence, la secouer pour lui ouvrir les yeux, pour qu'elle ne place pas ses espoirs dans le général, pour qu'elle cesse de trimer et de se raser pour lui, toujours prête à minimiser ses défauts. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient être. Ifemelu se sentit un peu réconfortée plus tard, en l'entendant hurler au téléphone.
« Foutaise ! Tu savais dès le début que tu allais à Abuja. Alors pourquoi me laisser perdre mon temps à faire des préparatifs pour toi ?
Le gâteau qu'un chauffeur livra le lendemain matin avec un « Je regrette mon amour » écrit en glaçage bleu avait un arrière-goût amer. Mais Tante Uju le garda pendant des mois dans le congélateur. La grossesse de Tante Uju les surprit comme une soudaine détonation par une nuit calme. Elle arriva à l'appartement dans un boubou pailleté qui attrapait la lumière, scintillant comme une présence céleste flottant dans l'air, et dit qu'elle voulait avertir les parents d'Ifemelu avant qu'ils la prennent par les bavardages.
Adim Ime,
dit-elle simplement. La mère d'Ifemelu fondit en larmes, de grands sanglots tragiques, comme si elle voyait répandus autour d'elle les fragments brisés de sa propre histoire.
« Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonnée ?»« Je n'ai rien prémédité, c'est juste arrivé, » dit Tante Uju. « J'ai été enceinte d'Olujimi à l'université. J'ai avorté, mais je ne vais pas recommencer. »
Le mot « avorté », dans toute sa brutalité, les effraya car ils savaient tous que la mère d'Ifemelu avait omis de dire qu'il y avait sûrement d'autres moyens de régler le problème. Le père d'Ifemelu posa son livre puis le reprit. Il s'éclaircit la gorge. Il calma sa femme.
« Bon, je ne peux pas demander quelles sont les intentions de cet homme, » dit-il enfin à Tante Uju. « Aussi, dois-je te demander quelles sont tes intentions à toi ?»«
Je vais garder l'enfant. »
Il attendit d'en entendre davantage, mais elle n'ajouta rien, et donc il se rassit, accablé.
« Tu es une adulte ? Ce n'est pas ce que j'avais espéré pour toi ou bien Uju, mais tu es une adulte. »
Tante Uju alla vers lui et s'assit sur le bras du canapé. Elle s'exprima d'une voix basse, apaisante, inhabituelle par son côté formel, mais dont la sobriété attestait la sincérité.
« Frère, ce n'est pas non plus ce que j'espérais, mais c'est arrivé. Je suis désolée de te décevoir après tout ce que tu as fait pour moi, et je te supplie de me pardonner, mais j'agirai pour le mieux. Le général est un homme responsable. Il prendra soin de son enfant. »
Le père d'Ifemelu haussa les épaules sans dire un mot. Tante Uju l'entoura d'un bras, comme si c'était lui qui avait besoin de réconfort. Par la suite, Ifemelu pensa que cette grossesse était chargée de symboles. Elle annonçait le début de la fin et semblait accélérer tout le reste. Les mois se bousculèrent, le temps se précipita. Et Tante Uju était tout sourire, le visage rayonnant, l'esprit empli de projets tandis que son ventre s'arrondissait. Tous les jours, elle proposait un nouveau prénom de fille pour le bébé.
« Oga est heureux, » disait-elle. « Il est heureux de savoir qu'il peut encore marquer un point à son âge. » Un vieil homme comme lui.
Le général venait plus souvent, parfois même le week-end, lui apportant des bouillottes, des pilules à base de plantes, des choses qu'on lui avait recommandées pour la grossesse. Il lui dit
« Tu vas évidemment accoucher à l'étranger »
et demanda ce qu'elle préférait, l'Angleterre ou l'Amérique. Il aurait voulu l'Angleterre pour pouvoir l'accompagner. Les Américains avaient interdit l'entrée de leur territoire aux membres de haut rang du gouvernement militaire. Mais Tante Uju choisit l'Amérique parce que son bébé pourrait y acquérir automatiquement la nationalité américaine. Les plans furent arrêtés, l'hôpital choisi, un appartement meublé loué dans un condominium à Atlanta. « Au fait, c'est quoi un condo ?» demanda Ifemelu. Et Tante Uju haussa les épaules.
« Qui sait ce qu'entendent par là les Américains ? Demande-le à Obinze, il le saura. En tout cas, c'est un endroit où habiter. Et Oga a des gens là-bas qui pourraient m'aider. »
Tante Uju ne perdit son enthousiasme que lorsque son chauffeur lui annonça que la femme du général avait eu connaissance de sa grossesse et était furieuse. Il y avait eu une réunion de famille tendue à laquelle assistaient ses parents et ceux du général. Il parlait rarement de sa femme, mais Tante Uju en savait bien assez. Elle était avocate et avait renoncé à sa carrière pour élever 4 enfants à Abuja, une femme d'allure corpulente et aimable sur les photos parues dans la presse.
« Je me demande ce qu'elle pense, »
dit tristement Tante Uju, l'air rêveur. Pendant qu'elle était en Amérique, le général avait fait repeindre une des chambres en blanc. Il acheta un lit d'enfant avec des pieds en forme de délicates chandelles. Il acheta des peluches et trop de nounours. Yin-Yang les disposa dans le berceau, en aligna une partie sur un rayonnage et, sans doute certaine que personne ne le remarquerait, en emporta un dans sa chambre à l'arrière de la maison. Tante Uju accoucha d'un garçon. Elle semblait excitée et joyeuse au téléphone.
« Ifem, il a tellement de cheveux, tu imagines ? Quel gâchis !»
Elle l'appela Dike, comme son père, et lui donna son propre nom de famille, ce qui irrita et inquiéta la mère d'Ifemelu.
« L'enfant devrait porter le nom de son père, à moins que cet homme n'ait pas l'intention de le reconnaître !»
demanda-t-elle tandis qu'elles étaient assises dans le salon, encore secouées par la nouvelle de la naissance.
« Tante Uju a dit que c'était plus facile de lui donner son nom à elle, » dit Ifemelu. « Et se comporte-t-il comme un homme qui ne reconnaîtrait pas son enfant ? Tante Uju m'a dit qu'il envisage même de venir payer son prix de la mariée. »
« Que Dieu l'en garde !» dit la mère d'Ifemelu, crachant presque ses mots. Et Ifemelu se souvint de toutes ses ferventes prières pour le mentor de Tante Uju. Sa mère, quand elle revint, s'installa quelque temps à Dolphin Estate pour nourrir le doux bébé gazouillant et lui donner son bain. Mais elle fit face au général avec une froide détermination. Elle lui répondait par monosyllabes, comme s'il l'avait trahi en rompant les règles de son accord. Une liaison avec Tante Uju était acceptable, mais une preuve aussi flagrante ne l'était pas. La maison sentait le talc pour bébé. Tante Uju était heureuse. Le général prenait souvent Dike dans ses bras, suggérant qu'il avait peut-être encore faim ou qu'il fallait montrer à un médecin les éruptions de boutons sur son cou. Pour le premier anniversaire de Dike, le général fit venir un orchestre. Les musiciens s'installèrent dans le jardin de devant, près du bâtiment du générateur, et restèrent jusqu'au départ des derniers invités, repus, le pas lourd, emportant des restes enveloppés dans du papier d'aluminium. Il y avait les amis de Tante Uju, les amis du général, tous déterminés à montrer que, en dépit des circonstances, l'enfant de leur ami était avant tout l'enfant de leur ami. Dike, qui marchait depuis peu, trottinette en costume et nœud papillon rouge, suivie de Tante Uju qui tentait de le faire tenir tranquille devant le photographe. Au bout d'un moment, fatigué, il se mit à pleurer, tirant sur son nœud, et le général le prit dans ses bras et le promena parmi l'assistance. C'est cette image du général qu'Ifemelu garderait en mémoire. Les bras de Dike passés autour de son cou, le visage rayonnant, son sourire laissant voir ses dents de lapin clamant
« Il me ressemble, oh ! Mais, Dieu merci, il a les dents de sa mère !»
Le général mourut la semaine suivante, dans l'accident d'un avion militaire.
Le jour même, exactement le jour où le photographe nous a apporté les photos de l'anniversaire de Dike,
répétait souvent Tante Uju en racontant cette histoire, comme si cela avait une signification spéciale. C'était un samedi après-midi. Obinze et Ifemelu étaient dans la salle de télévision. Yin-Yang à l'étage avec Dike, Tante Uju dans la cuisine avec Chico Dili, quand le téléphone sonna. Ifemelu décrocha. La voix à l'autre bout du fil de l'aide de camp du général crépitait à cause de la mauvaise connexion, mais était suffisamment claire pour qu'il lui transmette les détails. L'accident était survenu à quelques kilomètres de Joss. Les corps étaient calcinés. Des rumeurs couraient déjà, selon lesquelles le chef de l'État l'avait organisé pour se débarrasser d'officiers qu'il soupçonnait de fomenter un coup d'État contre lui. Ifemelu était agrippé au téléphone, abasourdi. Obinze l'accompagna à la cuisine et se tint près de Tante Uju pendant qu'Ifemelu lui répétait les paroles de l'aide de camp.
« Tu mens !» dit Tante Uju. « C'est un mensonge !»
Elle se dirigea vers le téléphone, comme pour lui demander des explications à lui aussi, puis s'affala sur le sol, glissant comme une masse molle, et se mit à pleurer. Ifemelu la prit dans ses bras, la berça, personne ne sachant quoi faire, et le silence entre ses sanglots sembla trop silencieux. Inyang descendit avec Dike.
Maman ?
Dit Dike, l'air étonné.
Ramène Dike en haut,
dit Obinze à Inyang. Des coups retentirent à la porte. Des hommes et trois femmes, des parents du général, avaient obligé Adamu à ouvrir le portail et se tenaient devant la porte de la maison, criant
« Uju, fais tes valises et fiche le camp ! Donne-nous les clés de la voiture !»
L'une des femmes était décharnée, agitée, les yeux rougis et elle hurlait
« Putain ! Que Dieu t'empêche de toucher à ce qui appartient à notre frère ! Prostituée ! Tu ne vivras jamais en paix à Lagos !»
Elle ôta le foulard qu'elle avait sur la tête et le noua étroitement autour de sa taille, se préparant à se battre. Tante Uju ne dit rien. Resta à les regarder, immobile à la porte. Puis elle leur demanda de partir d'une voix voilée par les larmes. Mais les cris des parents s'intensifièrent et elle tourna les talons, s'apprêtant à rentrer dans la maison.
« Très bien. Ne partez pas, » dit-elle.
« Restez là en attendant que j'appelle mes hommes de la caserne. » Ils ne partirent qu'à ce moment-là en promettant
« Nous reviendrons avec nos propres hommes !»
Tante Uju se remit alors à pleurer.
« Je n'ai rien. Tout est à son nom. Où vais-je emmener mon fils désormais ?»
Elle souleva le téléphone, le contempla, ne sachant qui appeler.
« Appelle Uche et Adusewa !»
dit Femelu. Elle saurait quoi faire? Tante Uju lui obéit, activa le haut-parleur du téléphone, puis s'appuya contre le mur.
Il faut que tu partes immédiatement. Ne laisse rien dans la maison, prends tout,
dit Uche.
Dépêche-toi avant que sa famille revienne. Trouve un pick-up et prends le groupe électrogène. Assure-toi de bien emporter le groupe électrogène.
Je ne sais pas où trouver un pick-up,
marmonna Tante Uju.
On va t'en trouver un, fissa. Il faut que tu emportes ce générateur. C'est ce qui te permettra de vivre jusqu'à ce que tu puisses te retourner. Tu dois aller t'installer quelque part pendant un certain temps, pour qu'il ne te fasse pas d'ennui. Va à Londres ou en Amérique. As-tu un visa américain?
Oui.
Ifemelu se souviendrait des images de ces derniers moments dans une sorte de brouillard. Adamu qui disait qu'il y avait un journaliste de City People à la grille du jardin. Chikodili et elle en train de bourrer les valises de vêtements. Obinze transportant les affaires dans le pick-up. Dike qui marchait en trébuchant et riait. La chaleur dans les chambres du haut était insupportable. Les climatiseurs s'étaient arrêtés brusquement, comme s'ils avaient décidé, d'un commun accord, de payer un tribut à la fin.